Calad Jazz. Tout sur le jazz avec Philippe, Richard et Dédé. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Calade 100.9, soyez les bienvenus dans votre émission Calade Jazz. Et je suis avec mes complices de toujours, Philippe, bonsoir.
Bonsoir Richard, bonsoir Dédé.
Dédé, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde.
Et Françoise que je salue, qui
oui,
continue.
Dès qu'on va pouvoir.
Je vous rassure, elle continue son tour du monde.
Et voilà.
À la recherche de nouvelles idées pour notre plus grand plaisir. Elle va arriver. On ne s'inquiète pas. Et ce soir, nous continuons à rendre hommage à Wayne Shorter et nous allons donc continuer d'évoquer sa carrière en groupe au début des années 70 où il va créer le Weather Report dont tu vas nous parler, Philippe.
Tout à fait. Donc effectivement, nous allons dans cette deuxième émission qui va aller donc de 1970 jusqu'à nos jours.
Oui.
Nous allons évoquer dans cette seconde partie donc la carrière de Wayne Shorter en groupe, en leader, la carrière en groupe, en leader, et sa participation, bien évidemment, pour terminer sur le quartet. Donc la période en groupe, forcément la plus importante, c'est la création de Weather Report, comme tu l'as dit. Weather Report, il fallait quand même trouver le nom, parce que traduit en français, ça fait bulletin météo. Mais aussi un projet en commun avec Carlos Santana, mais on en parlera un petit peu plus tard, j'ai plus parler. Ah bon, on en parlera un petit peu plus tard, le micro a été coupé, je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas
si vous m'entendez encore, moi
si, c'est bon.
Plus ou très peu. Ah voilà, vas-y, merci beaucoup. Donc je ne vais pas recommencer, nous étions avec Carlos Santana. On revient donc à Weather Report. Tout commence en fin de compte chez Miles Davis, il ne faut jamais l'oublier, avec la rencontre des fondateurs de Weather Report, donc ils vont être effectivement Wayne Shorter, Joe Zawinul le pianiste, Miroslav Vitus à la basse, et ensuite après j'ai perdu le batteur, mais je vais le retrouver tout à l'heure. Le groupe se forme donc à New York en 1971, c'est la naissance officielle aussi du jazz rock, appellation très très marketing, hein. Simplement parce que le jazz dans ces époques-là est un peu en perte de vitesse et il fallait bien trouver une idée. Alors les gens du marketing, on se dit, bah tiens, si on associait le jazz et le rock, pof, jazz rock. Alors qu'en vérité, il n'y avait absolument jamais aucun musicien qui venait du rock, ils venaient tous de la planète jazz. Le groupe est à la tête d'une vingtaine d'albums quand même, entre 1971 et 1986. C'est la grande période, c'est certainement celle de 76 à 81, avec l'arrivée de Jaco Pastorius à la basse et Peter Hanskin à la batterie, et dont j'ai été témoin le 29 septembre 1977, ça nous rajeunit pas, au pavillon de Pantin à Paris. À l'époque, l'entrée 35 francs, vous rendez compte, il est toute une...
C'était énorme.
Énorme à l'époque. Bon, bien évidemment, une claque énorme quand on vient, comme moi je venais, du swing, du bebop. C'est un déferlement électrique de guitare, de basse, de synthé, du gros son. Une musique où parfois d'ailleurs il est difficile de reconnaître un thème. Il y a beaucoup d'improvisation et longue. Tout est pratiquement en binaire. C'est une ambiance malgré tout dans les coulisses, comme dans la scène, comme dans le public, très peace and love, si vous voyez ce que je veux dire. Et en tout cas, bon, je me résume, une grande clap. Il y a eu bien d'autres musiciens que ceux que je viens de citer qui ont participé à l'aventure, mais je vous renvoie là à la fiche Wikipédia parce que là, la liste est bien beaucoup trop importante. Voilà, je vais arrêter de parler. Je vous propose d'écouter une première plage pour illustrer cette période. Alors, désolé pour les aficionados qui auraient certainement préféré que je choisisse un autre thème, car celui-ci, ou en tout cas celui que je vous propose, est aujourd'hui un standard maintenant. Mais nous sommes là aussi pour faire découvrir, et peut-être certains de nos auditeurs se diront « Ah ouais, ça c'est Weather Report !» Donc, un hommage à un célèbre club new-yorkais qui s'appelait le Birdland, un morceau composé par José Zawinul. Voilà, je vais y arriver. Clavier, bien évidemment, Wayne Shorter au saxophone, Jaco Pastorius à la basse, Alex Acuna à la batterie, Manolo Badrena aux percussions, Birdland Weather Report. We'll be right back.
Quelle ambiance dans le studio, équilibre en pleine forme. C'était Birdland. Et maintenant, alors je crois que nous avons retrouvé Françoise.
Je pense, non. Allô, Françoise. Eh bien, on n'a toujours pas trouvé Françoise. Tu m'entends, Françoise, là?
Oui.
Bonsoir, Françoise.
Voilà. Mais
bonsoir
à tous. Mais où étais-tu donc? Où es-tu ce soir, Françoise? Dans quelle belle ville du monde es-tu?
Je suis toujours à Tokyo.
Bien. C'est pour ça que c'est pas la même heure.
Ah, tu sais qu'on ne pouvait pas t'avoir, je commençais à rire jaune, moi.
Il est incroyable. Il est incroyable.
Inferne. Allez, Françoise, de quoi tu nous parles ce soir?
Eh bien, moi, je vais revenir sur
merci, Françoise.
Que le groupe choisit, Weather Report. D'autant plus drôle que, quand on le dit en français, bulletin météo. Wayne et ses comparses furent-ils des visionnaires au-delà de la musique? Avaient-ils eu vent d'un avenir soumis aux catastrophes apportées par le réchauffement climatique? Quand on voit aujourd'hui l'époque actuelle rivée sur la météo, qui vit au gré de ses prédictions pour se prémunir de son impact à l'échelle planétaire. Or, ces histoires de la météo remontent à l'Antiquité. La météorologie scientifique naît au XVIIe siècle avec l'invention des premiers instruments de mesure, le baromètre et le thermomètre. Mais il faut attendre encore deux siècles, le XIXe, pour que soit inventé le bulletin météorologique, rapidement appelé bulletin météo, aujourd'hui réduit à météo, qui annonce à la fois le temps qu'il fait et celui qu'il fera. Avec le bulletin météo, c'est la naissance de la météorologie moderne. Les premières observations systématiques des conditions météorologiques commencent à être enregistrées et analysées. L'un de ses pionniers est le mathématicien et physicien britannique James Glaisher. Il étudie des variations de température et d'humidité dans l'atmosphère lors de ses premières ascensions en ballon. Or, c'est au siècle précédent, au XVIIIe, que la montgolfière, premier type de ballon à air chaud, fait son vol inaugural le 4 juin 1783, Cocorico, à Annonay, en France. Les frères montgolfiers, Joseph Michel et Jacques Étienne, industriels et inventeurs, conçoivent un ballon rempli d'air chaud qui peut s'élever dans les airs. Et pirouette cacahuète, le ballon est en papier et en tissu. Et l'air chaud est produit en brûlant de la paille et du bois à la base du ballon. Le 19 septembre de la même année, le premier vol public a lieu à Paris avec des êtres vivants à bord, un coq, un mouton et un canard. Et le 21 novembre, c'est le premier vol humain réussi. Jean-François Pilâtre de Rosiers et le marquis François-Laurent d'Arlande parcourent environ 9 km au-dessus de Paris. Cependant, le premier bulletin météo officiel enregistré sera publié à l'Observatoire de Paris en 1863, encore Cocorico, sous la direction du physicien et météorologue français Urbain Le Verrier. Ce bulletin contenait non seulement des informations sur les observations météo, mais aussi les prévisions. Durant la Première Guerre mondiale seront créés les premiers services météo aux armées, et c'est en 1922, depuis la Tour Eiffel, que seront radiodiffusés les premiers bulletins météo.
Merci Françoise pour cette très intéressante
intervention
très technique. Merci bien.
Oui, on s'est envolé un peu là.
Voilà.
Ouais. Avec le fer montgolfier.
Eh oui.
Annonay.
Allez, bien, nous continuons notre hommage sur Wayne Shorter. Et comme tu l'as dit, Philippe, il multiplie les projets dans sa carrière. Mmh. Mais en parallèle, je me permets juste de signaler que durant cette période, sa fille handicapée mentale va décéder en 1983. Mmh. Et aussi sous l'impulsion de Hancock, avec sa femme, ils vont étudier également activement le bouddhisme.
Tout à fait.
Parce que selon lui, cette pratique l'aidera à surmonter le décès de sa fille. Mmh. Alors maintenant, Philippe, parle-nous de ses enregistrements sous son nom durant cette période.
Alors, pendant la période de Weather Report, il a vraiment consacré sa carrière que à Weather Report. Parce qu'il en était forcément l'un des compositeurs avec Zawinul. Nul. À ma connaissance, forcément, il peut y avoir des trous dans le gruyère, mais à ma connaissance, dans 1975, il y a un disque qui s'appelle Native Dancer, qui est avec la complicité d'un chanteur brésilien qui s'appelle Milton Nascimento. Et ensuite, en 1985, il y a aussi un autre titre qui sort qui s'appelle Atlantis. Si vous voulez bien, on va écouter un morceau de cette période. Avec la partie brésilienne, le morceau avec Milton Nascimento. Ça s'appelle Cri en cage.
c'était Crayon Cage. Et nous continuons toujours sur One Shorter, oui. N'est-ce pas? Donc là, il va partir, ou il va arrêter le Weather Report. Mmh. Il va en terminer une période un peu difficile de sa carrière, manque d'inspiration, difficulté de trouver des musiciens stables. Mais il va quand même continuer avec qui, Philippe?
Avec Carlos Santana. Ils vont organiser une tournée. Juste une demi-seconde, parce que j'ai peur de ne pas avoir été très très clair tout à l'heure, en vous présentant le morceau qu'on va écouter, Crayon Cage. C'est extrait du disque Atlantis. Hein. Je crains d'avoir dit à un moment donné, il y a eu le disque avec Milton Nascimento, mais celui que je viens de vous proposer, et je craignais de ne pas avoir été clair. Donc effectivement, revenons à Wayne Shorter, donc a fini Weather Report. Il a fait ses deux enregistrements, il se cherche un peu, comme tu l'as dit, pour plein plein de raisons. Et il va s'associer pour une seule tournée avec Carlos Santana, mais c'est pas la première fois, hein, parce que déjà en 1980, avec Herbie Hancock et Ron Carter, entre autres, ils étaient sur un enregistrement de Santana qui s'appelait The Swing of Delight. Et cette fameuse tournée de Carlos Santana en 1988, moi j'en ai été aussi témoin, mais comme beaucoup, bien évidemment, ça se passait au Palais des Sports le 11 juillet, exactement 1988. Si vous souhaitez revoir cet enregistrement et cette tournée, il y a un DVD et un disque qui existent, qui a été enregistré au Jazz Festival de Montreux. À titre personnel et sans jugement de valeur, bien évidemment, parce qu'on parle quand même de Carlos Santana et de Wayne Shorter. Oui. Moi, j'ai pensé que la mayonnaise prenait pas trop, quoi. C'est-à-dire que chacun était vraiment dans son coin. On sentait que ça pouvait le faire, mais je sais pas. Ou alors peut-être qu'ils étaient pas en forme ce soir-là. J'en sais rien. Mais enfin, même quand on écoute le disque, je vous conseille, vous verrez. Enfin, moi, j'ai trouvé que la mayonnaise prenait pas vraiment. Donc Santana était avec son groupe, bien évidemment. Donc tous ceux qu'on connaît du groupe Santana et Wayne Shorter était avec sa pianiste de l'époque qui s'appelle toujours Patricia Ruben. Donc je vous propose plutôt que vous faire écouter l'extrait de Montreux de 88, je vous propose plutôt de revenir dans les années 80 et d'écouter un extrait du premier enregistrement de la participation, comme j'ai dit tout à l'heure, Herbie Hancock et Ron Carter. Donc The Swing of Delight, et j'ai choisi le morceau Sherka Khan The Tiger. Je pense que tout le monde aura compris de qui il s'agit. Thank you.
C'était Shirkan the Tiger. Et vous êtes bien dans votre émission Cala Jazz. Nous continuons notre hommage à Wayne Shorter qui nous a quittés cette année. Et je me retourne à nouveau vers Françoise qui va nous parler de quoi maintenant ?
Écoute Richard, moi je me pose toujours des questions sur les noms des groupes, comment ils choisissent les titres des morceaux. Et en m'interrogeant sur le titre de l'album que l'on vient d'écouter, je voulais demander à Dédé de passer en intro le rugissement du lion. Vous savez la mascotte du studio hollywoodien de la Metro-Goldwyn-Mayer.
Ah oui,
sauf que Shere Khan, c'est un tigre du Bengale, dont le nom veut dire seigneur tigre en hindi. Ce choix peut-il être rapproché de l'attirance de Wayne pour le bouddhisme, pratique, comme tu nous l'as dit Richard, par laquelle il cherchera une consolation à la mort de sa fille Iska? Ou bien Wayne s'identifie-t-il à ce personnage de fiction, né en 1894 de l'imagination de Rudyard Kipling dans le livre de la jungle? Seigneur de la jungle, malveillant et redouté, Shere Khan voue une haine féroce à tous les hommes qui le traquent sans relâche car il décime leurs troupeaux. Il est à la recherche du héros de l'histoire afin de le tuer avant qu'il ne devienne un homme, Mowgli, le petit homme, élevé par les loups. Mais Shere Khan est réputé pour ne tuer que des bestiaux et se repaître de leur carcasse. Finalement, il n'inspire que le mépris. Impulsif, il est loin d'être une terreur pour les autres animaux de la jungle, d'autant que Kipling l'a fait naître boiteux. De plus, il craint les flammes, plus que tout, depuis qu'il a sauté sur un feu de bûcheron et s'être brûlé les pattes, ce qui donnera la victoire à l'enfant dans leur dernier affrontement. Mais peut-être en avez-vous, comme moi, un autre souvenir, celui laissé par l'adaptation animée qu'en fait Walt Disney en 1967. Contrairement à l'œuvre originale, où il est plus méprisé que craint, Disney en fait un animal robuste, un prédateur en puissance, cruel, qui aime tuer. Et si la biche qu'il surveille reste la proie naturelle du carnassier, la volonté de tuer Mowgli est présentée comme un jeu sadique. Lorsqu'il le trouve enfin, il se refuse à le tuer immédiatement, lui offrant même une fausse occasion de fuir. Sûr de lui, Shere Khan jouit de la crainte qu'il inspire. Il aime l'idée que la seule évocation de son nom provoque la terreur. Appelez votre Altesse, parlez vautours, il s'amuse à leur faire peur d'un simple bout. Et c'est pour cette raison que Bagheera et les loups veulent à tout prix que Mowgli quitte la jungle pour rejoindre ses congénères. Arrogant, sûr de lui, il s'estime bien supérieur aux autres. Qualifiant Hathi d'idiot et de grotesque colonel, il ne respecte personne. Meurtrier reconnu, le tigre n'en reste pas moins un animal sophistiqué. Toujours posé, il parle avec calme et tact, usant dans la version originale de son accent « British ». Mais cette patience et ce calme ne sont qu'une vitrine. Au fond de lui, Shere Khan est terrifié par les hommes et par le feu. Dès lors, l'instinct de mort du tigre prend le pas sur le flegme britannique dont il a jusqu'alors fait preuve. Griffes dehors, yeux enragés, il attaque sauvagement. La colère est telle qu'il ne peut retenir ses paroles et ses coups. La fureur est telle qu'il ne se rend alors pas compte que Mowgli est en train de nouer une branche enflammée à sa queue. Shere Khan se retrouve nez à nez avec son deuxième ennemi, le feu. Terrorisé, il prend la fuite à travers la jungle, ruinant ses chances de tuer Mowgli, ainsi que sa réputation de terreur. Alors, peut-on croire au hasard dans le choix des titres donnés par Wayne et sa musique ?
Merci beaucoup, Françoise.
Merci, Françoise, super.
Telle est la question.
Et maintenant, nous allons parler de sa période leader et participation.
Oui, c'est-à-dire qu'on arrive à une période qui va aller de 1985 aux années 2000. Pour les illustrer, j'ai choisi trois enregistrements. Le premier, François, j'ai pensé à toi, parce que quand tu es au Japon, il y a un magnifique festival au Japon qui s'appelle Under the Sky. Et là, nous sommes le 26 juillet 1987. Et se présente sur la scène Dave Liebman, qui est un exceptionnel saxophoniste. Avec lui, donc Wayne Shorter, Richard Berak au piano, Eddie Gomez à la basse et Jack DeJohnette. Le tout pour un hommage à leur maître à tous, John Coltrane. Je vais vous proposer d'écouter Mr. PC. C'est donc un morceau qu'a écrit John Coltrane en hommage à son contrebassiste qui s'appelait Paul Chambers. Le premier à prendre un chorus au sax soprano est Dave Liebman, et il sera suivi ensuite de Wayne Shorter. Alors vous allez voir, ça décoiffe, c'est sur un tempo infernal. Ils ont une particularité, je dis ça, c'est pas pour mettre de la confiture sur la tartine, mais comme l'on dit chez nous, ils jouent out complètement. Donc forcément, vous allez entendre parfois des choses un peu bizarres. On pourra peut-être pas passer le morceau en entier parce qu'il est très très long, donc on va en tout cas mettre en exergue la façon d'interpréter un thème des, et les chorus de ces deux musiciens. Je vous propose donc d'écouter Mr. Pieciste au Japon.
c'était Mister PC. Malheureusement, on n'a pas pour l'écouter jusqu'au bout.
Non, non, mais l'enregistrement existe en entier. Hein, il est visible partout, YouTube, en CD. Enfin, en tout cas, il fallait être là le 26 juillet 87.
C'est incroyable, les Français qu'il y a là-dedans. C'est unique.
Voilà.
Alors, on va continuer avec une particularité dans son orchestre, Philippe.
Oui, particularité, parce que donc là, nous étions en 1987, maintenant les choses vont aller assez vite, on va en 1988, et là, il sort un certain nombre d'enregistrements sous son nom. J'ai choisi un instrument qui s'appelle Joe Ryder, qui est sorti donc en 1988, avec une particularité, pardon, c'est qu'il y a beaucoup de femmes avec lui sur l'orchestre. Alors moi j'ai été témoin de ça, je suis désolé, je raconte, c'est pas que je veux raconter ma vie, mais Wayne Shorter est quand même un musicien que j'ai vu très souvent. Et cette année-là, donc j'étais du côté de la Pinel, enfin de Signé, festival de jazz donc de Nice. Et Wayne Shorter s'est présenté au saxophone ténor et soprano, bien évidemment. Il y avait donc Patricia Ruchen au clavier, Jerry Allen au piano acoustique et au synthétiseur, Terry Line, Carrington, qu'on a vu d'ailleurs au Jazz Festival de Vienne là, cette année à la batterie, et Diane Reeves au chant. Donc je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Someplace Called Where. Vous allez voir, c'est tout à fait, on est vraiment dans un autre registre comparativement à ce qu'on vient d'écouter.
c'était Someplace Coldware. Et maintenant, un grand moment de sensibilité que tu m'as expliqué, Philippe, mais qui est lié à un drame personnel, puisqu'en 1996, son épouse et sa nièce, qui devaient le rejoindre en Europe, malheureusement décèdent dans le crash de l'avion qui est transporté. Alors, que va-t-il faire avec son ami Herbie Hancock?
Oui, alors, forcément, Herbie Hancock et Wayne Shorter, c'est vraiment les frères de musique, quoi. C'est des siamois, vraiment. Donc, ils ont eu des collaborations nombreuses. Il m'en vient une en l'esprit, là, c'est ce qu'on avait appelé le VSOP, vous savez, la fameuse marque d'une liqueur bien connue, avec Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Ron Carter, Tony Williams à la batterie. Il y a eu aussi des tournées hommages à Miles Davis, toujours avec les mêmes, mais dans le rôle de Miles Davis, il y avait Wallace Rooney. Et puis, effectivement, donc, comme tu l'as évoqué, le fameux drame de 1996 où il venait le rejoindre dans un concert en Italie. Donc Herbie Hancock a toujours été tellement présent autour de Wayne Shorter et vice-versa. Ils vont, entre guillemets, s'isoler dans la maison d'Herbie Hancock. Ils vont jouer, certainement parce que la musique, c'est la meilleure des thérapies pour eux. Et puis à un moment donné, ils vont enregistrer. Et c'est un de ces enregistrements que je vous propose. Le disque est sorti 1+1, c'est bon, voilà, on ne peut pas faire plus simple. Il est sorti en 97. J'ai extrait Johanna's Theme. C'est une merveille de sensibilité au piano et au sax soprano.
c'était John Astem. Et pour conclure cet hommage à Wayne Shorter, nous allons parler des années 2000. Il y a des changements qui arrivent. Shorter se marie avec Carolina Dos Santos. C'est une amie de longue date. Il déménage à Miami. Et il va former un quartet. Tu vas nous présenter, Philippe.
Oui, il va former un quartet à partir donc, effectivement, de l'année 2000. Quartet avec au piano Danilo Perez, à la basse John Patitucci et à la batterie Brian Blade. Alors que dire, je l'ai vu aussi pendant ces 20 dernières années pas mal de fois. Je vais essayer de résumer, mais encore une fois, disons qu'il a commencé ce quartet en 2000, là où John Coltrane avait arrêté, lui, et malheureusement pris par la maladie. Donc bien évidemment, ce n'est pas le Wayne Shorter que nous avons écouté dans la première émission, ce n'est pas le Wayne Shorter même que nous venons d'écouter ici, ce n'est pas non plus du free jazz, c'est vraiment quatre musiciens qui arrivent à une osmose complète. Alors il est vrai que pour assister à ces concerts-là ou pour écouter les disques de ce groupe-là sur ces 20 dernières années, je dirais en plaisantant un peu qu'il faut avoir du temps, il faut être ouvert malgré tout, être disponible et être en pleine forme pour apprécier, il faut l'écouter plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et c'est à noter qu'effectivement, lors de ces concerts auxquels j'ai assisté, au bout de 40 minutes, la salle se vidait à moitié. Mais peut-être aussi parce que les spectateurs attendaient le Wayne Shorter que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc je vous propose d'écouter, et j'ai fait simple, un morceau qui dure très peu de temps. Ça s'appelle « Unidentified Flying Object ». Écoutez, essayez d'apprécier. C'est pas forcément compliqué, mais c'est vrai qu'il faut vraiment tendre l'oreille.
C'était notre hommage à Wayne Shorter.
Je vous avais prévenu. Voilà, c'est pendant les 20 dernières années de sa vie, il a exploré cette direction-là. Quoi, voilà.
D'accord.
Non, un dernier petit mot, parce qu'on n'aura pas le temps, bien évidemment. Il y a eu un dernier enregistrement en 2018 qui s'appelle Emanon, qui est un enregistrement donc, avec ce même quartet, mais avec également l'Orpheus Chamber Orchestra. Et c'est aussi à écouter absolument, parce qu'il y a une très grosse écriture pour les cordes. Voilà.
Merci Philippe. Je signale qu'en 2005, Stéphane Carini a consacré à Wayne Shorter le seul ouvrage d'analyse de l'œuvre de celui que le New York Times considère comme le plus grand compositeur de jazz vivant. Voilà, c'était notre hommage à Wayne Shorter qui nous a quittés cette année. Le temps nous a quittés. Et le temps nous est compté, nous devons nous quitter. Désolé pour les petits problèmes techniques, ce sont les aléas du direct, bien sûr. Voilà. Je signale un changement pour la diffusion de notre émission, Cala Jazz, à savoir que nous allons intervenir dorénavant le premier jeudi de chaque mois, toujours à 19h. Donc rendez-vous en septembre parce que nous faisons notre petite pause estivale. Mm-hmm. Donc bonnes vacances.
Également, tout le monde.
Et je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter le dimanche à midi, le jeudi à 19h et en podcast sur Radio Cala 100.9.
Et avec
voilà.
Plein de surprises à partir du mois de septembre.
Ah voilà, on ne raconte pas
on
ce qui. Deuxième,
mais c'est déjà prêt. Hein.
Tout est dans les. Hein on... Oui, Dédé.
Eh ben, on y va.
Ouais, oui, on dit au revoir à Françoise.
Au revoir, Françoise. Oui, un bel été à tous.
Hein. Également, voilà. Françoise. Nous, on a nos palmes, on a notre tuba, on a tout ce qu'il voilà. faut, on va y aller.
Eh ben, merci Dédé, la technique.
Le
merci.
Tuba pour un saxophoniste. Ah, bravo. Tuba,
elle bien. Est bonne, elle est bonne. Merci Philippe, merci Françoise. Allez, au revoir à tous. Merci, à la prochaine fois.
Au revoir tout le monde.